L'entrevue.
L'entrevue ?
L'entrevue ?
L'entre quoi ?
L'entrevue. L'émission d'actualité locale sur Radiola.
3, 2, 1, 0.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue auditeurs et auditrices du jeudi. Vous écoutez l'entrevue sur Radiola, web radio associative du pays de Dieulfi-Bourdeaux. Comme chaque semaine, le mardi et le jeudi matin, en direct, nous ouvrons le micro et les oreilles vers ce petit coin de Drôme et son actualité. Un petit territoire aux grandes idées, riche en initiatives collectives et coopératives. Au menu du jour, agriculture nourricière, autonomie alimentaire et solidarité. C'est parti.
L'entrevue. L'actualité locale au pays de Dieulfi-Bourdeaux.
Le collectif local pour une sécurité sociale de l'alimentation réfléchit et agit depuis près de 3 ans pour permettre à chacune et à chacun de se nourrir sainement, localement et durablement. Composé de paysannes, paysans, d'élus, de citoyennes, citoyens, ce collectif né à Dieulfi est l'un des premiers à mettre en pratique une proposition, celle d'étendre les principes de la sécurité sociale de 1945 à l'alimentation et l'agriculture. À Dieulfi, l'expérimentation du marché du lavoir, qui proposait des produits à prix différenciés, s'arrête en 2024. Elle doit se réinventer et coller aux besoins du territoire. Pour en parler, nous recevons Mathieu Yon, maraîcher en agriculture biologique à Dieulfi, et Camille Perrin, conseillère municipale déléguée à la résilience alimentaire. Bonjour Camille et Mathieu.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes tous deux à l'origine du projet local de sécurité sociale de l'alimentation. Mathieu, tes légumes notamment ont rempli les étals du marché du lavoir. Camille, tu animes le collectif local depuis ses débuts. Peut-être première question pour les habitantes et les habitants qui se la posent. Pourquoi avoir choisi d'arrêter le marché du lavoir ? Camille, peut-être ?
Ou Mathieu.
Alors, je vais essayer de saisir la question au vol. En fait, on a mis en place ce projet donc, de prix différenciés, qui était, comme tu disais, une proposition qui essayait de tendre vers une sécurité sociale d'alimentation, mais qui n'en était pas une. Hein. C'était juste pour, quelque part, amener cette idée dans les assiettes aussi, quelque part. Et pendant 2 ans et demi, en fait, ça a très bien fonctionné. La clientèle, au début, la caisse a monté, parce qu'on a créé une caisse alimentaire indépendante, autogérée. Et à un moment donné, on était face aussi à commencer à toucher les limites du système des prix différenciés, parce que la caisse ne pouvait pas être déficitaire, sinon les producteurs, dont moi, ne se payaient pas. Donc, quelque part, pour moi, c'est pas, quand je dis ça, c'est pas du tout un échec. Au contraire, c'est le fait que la caisse ait commencé à atteindre ses limites économiques, c'est plutôt une réussite. Ça veut dire qu'on a, pendant 2 ans et demi, réussi à tenir un équilibre économique de la caisse en donnant accès à une alimentation de qualité à la plupart des gens, enfin, à tous ceux qui le souhaitaient en tout cas, avec des productions diverses et variées sur 3 points de vente, Pont de Barré ensuite, le Fournil des Comètes et Lavoir. Et donc c'est une certaine fierté avec le collectif, avec Camille, d'avoir réussi à faire ça. Mais il y avait aussi une question qu'on avait envie de basculer vers un autre modèle qui se rapprochait encore un peu plus, qui n'est pas encore la sécurité sociale alimentation, mais qui s'en rapprochait encore un peu plus. Et que ça nous semblait peut-être difficile de mener tout de front, et autant donner nos forces vives, et qu'on avait envie de mener vraiment pleinement en fait cette bataille, alors pas de la sécu mais en tout cas de la cotisation sur le territoire, et que c'était ça, là on avait envie vraiment d'embarquer plus de monde, plus de points de vente, plus de citoyens et citoyennes, et qu'on avait envie d'y aller, quoi.
On a commencé en décembre 2022 en fait à travailler sur la phase suivante après les prix différenciés. Et donc là, ça fait déjà plus d'un an qu'on travaille un travail un peu invisible avec tout le collectif pour passer à l'étape suivante. Et on avait besoin de pouvoir recentrer nos forces vives sur cette nouvelle étape.
Donc l'étape suivante, c'est la cotisation. Peut-être pour rappeler l'expérimentation autour du marché du lavoir, les prix différenciés dont vous parliez, c'était 3 prix pour un même produit. Donc un prix en fonction de ses revenus, un prix... producteur, on va dire, un prix solidaire et puis un prix
accessible.
Ce système de cotisation, comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce qu'il implique?
Alors la proposition, c'est que toute personne puisse verser une cotisation à cette caisse, cotisation qui va être calculée en fonction de ses revenus, et que toutes les personnes qui ont cotisé vont pouvoir recevoir un montant fixe mensuel à dépenser dans des points de vente qu'on dit conventionnés, c'est-à-dire qui sont choisis par les citoyens au sein d'un conseil local de l'alimentation et qui répondent à certains critères. Pour faire le parallèle avec la Sécu, il y a des médecins généralistes, il est conventionné, l'ostéo n'est pas conventionné, il n'est pas remboursé par la Sécu. Donc voilà, là il y a l'idée à travers le conventionnement de vraiment choisir quelle alimentation on a envie de privilégier pour certains critères, notamment de durabilité. Et donc dans les personnes qui cotisent, il y en a qui vont cotiser 50, 60, voire 30 euros, ou 100, 120, 150, 200 euros en fonction de leurs moyens. Et tout le monde va recevoir la même somme, entre 100 et 150, ce n'est pas encore fixé. Et donc, ça permet en fait de, à travers cette solidarité organisée, de donner à tout le monde, tous les participants, les moyens d'avoir accès à cette alimentation durable.
Et concrètement, pour une personne qui va acheter son pain au fournil des Comètes et qui souhaite, à Poët-Laval, et qui souhaite... rentrer dans le système de SSA, qu'est-ce qui va changer pour cette personne? Il y aura donc des papiers à fournir avant pour accéder à cette carte et système de cotisation?
Alors on est en train de mettre en place ce dispositif. Ça va s'appuyer sur un outil technique forcément dont on a besoin pour gérer tout ça. On n'envisage pas de revenir à l'ancienne époque avec des feuilles de sécu à se faire rembourser, etc. Donc on va quand même se baser sur des outils numériques. Mais l'idée, c'est que chaque personne, chaque cotisant ait un compte qui va abonder par virement ou aussi on pourra prendre des chèques, des espèces. Mais il va abonder mensuellement. Et en retour, il aura un moyen de paiement. Donc soit s'il a un smartphone, il pourra avoir une appli où elle va indiquer « Fournil des Comètes, je lui verse les 5 euros que je lui dois au moment où je passe à la caisse ». Donc c'est vraiment un moyen de paiement. Soit si la personne n'a pas de smartphone, ça sera le point de vente qui va lui proposer de juste taper son code personnel, son code confidentiel pour valider la transaction. Voilà, et ça c'est en cours de construction.
Sur les points de vente, justement, où est-ce qu'on pourra à l'avenir acheter des produits de producteurs et productrices engagés dans la démarche? Est-ce que vous souhaitez étendre l'expérimentation à davantage de points de vente notamment?
Alors c'est pas encore défini, choisi, puisque en fait l'idée c'est que ça soit avant la création de cette caisse qu'on aimerait bien lancer en octobre. On a envie de lancer au préalable un conseil local de l'alimentation. Donc on est en train on a fait toute une série pendant 3 mois, on a travaillé avec le collectif de citoyens impliqués sur les critères de composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil local de l'alimentation. Et on aimerait bien démarrer ce conseil en avril. Et donc on va avoir toute une phase de recrutement, de création de ce conseil en fonction des critères qui ont été définis. Donc ça serait environ 25 membres avec une représentativité de tout le territoire de la Comcom d'Ulphie-Bourdeaux, avec des critères de catégories socio-professionnelles, etc. Hommes-femmes, on a réfléchi pour qu'il puisse y avoir une représentativité. Et l'idée, c'est vraiment que ça soit ce conseil local on est aussi en train de travailler sur un programme de formation pour justement sensibiliser ces personnes sur les enjeux du système alimentaire, etc. Ces personnes qui prennent les décisions de dans quel point de vente on va pouvoir aller faire ses courses, quelles vont être les grilles de cotisation en fonction des revenus. Et que ce ne soit pas le groupe là qui travaillait depuis 2 ans qui soit décisionnaire de tout ça, mais ce nouveau conseil local de l'alimentation. Puisque cette dimension en fait de démocratie alimentaire, c'est-à-dire où il y a une réappropriation par les citoyens de ces questions-là et de ces décisions-là, ça fait vraiment partie de la sécurité sociale de l'alimentation.
sur le, j'imagine que du coup toutes ces questions donc de points de vente, d'intégrer davantage de productrices, de producteurs, ça sera quelque chose qui sera discuté par ce conseil de l'alimentation, conseil local de l'alimentation, comme tu dis. Sur l'échelle de prix, ça sera, vous y avez déjà réfléchi ou ça sera décidé également avec les habitantes et les habitants? Est-ce que vous allez garder dans l'idée ces trois prix, ce système de trois prix dont on parlait, ou pas forcément?
Ben, a priori non. Ce sera beaucoup plus fin entre guillemets, c'est-à-dire beaucoup plus adapté à la situation réelle de chacun, donc avec beaucoup plus de variations, comme expliquait Camille, prise en compte de plus dans le détail des situations sociales et économiques de chacun, pour répondre au mieux aux besoins de chacun, pour qu'il puisse avoir accès à l'alimentation. Les prix différenciés, c'était quelque part, c'était un peu à la hache, quoi. C'est-à-dire, on faisait trois prix pour voir trois catégories sociales, on va dire, mais c'est un peu à la hache, quand même. Donc là, ce système de cotisation sera beaucoup plus, selon moi, proche des réalités sociales des gens, toujours dans l'idée de donner accès à une alimentation de qualité. Et après, peut-être qu'on y viendra plus tard, mais c'est les deux côtés, c'est-à-dire côté citoyen mangeur et côté paysan producteur, on pourrait dire. Que les deux fonctionnent ensemble, c'est toujours ça, c'est-à-dire que donner accès à une alimentation de qualité pour que, si la filière s'organise correctement, ce soit un réel débouché sécurisé et pour les producteurs. Voilà.
Oui, Camille.
Par rapport en fait au système des trois prix où il y avait sur Dulfi que le marché du lavoir, là l'idée c'est que les gens ils vont avoir différents points de vente, plus avec une amplitude horaire sur la semaine plus large. Donc en fait, ça va être plus facile aussi de participer parce qu'il n'y aura pas juste ce créneau du mercredi 17h-19h pour aller faire ses courses. Et voilà, donc c'est l'idée d'ouvrir aussi à une clientèle qui jusque-là n'avait pas les moyens d'acheter ce type d'alimentation et de permettre à tout le monde de faire ses courses à différents endroits, au marché de Dulfi, au magasin de producteurs, à l'épicerie bio, etc. Et selon les critères qui seront décidés par ce conseil local de l'alimentation.
Combien de temps est-ce que vous vous donnez pour valider ce nouveau système?
Alors, on a fait un calendrier prévisionnel idéal en fonction de nos ressources. Le conseil local, il démarrerait en avril. Il ferait deux réunions par mois pendant trois mois. Ensuite, on passerait à une réunion. Et donc il y aurait ce programme de formation pendant les trois premiers mois et ensuite des réunions dédiées aux prises de décision de quel point de vente, quel produit on veut conventionner, quelle grille de cotisation en fonction des revenus, etc. Idéalement, je pense qu'on lancera une petite expérimentation pilote peut-être avec les gens du Conseil local de l'alimentation entre juillet et septembre. Et on aimerait bien lancer la caisse ouverte à tout le monde en octobre. Donc, ce qui veut dire aussi de travailler avec les partenaires techniques qui vont nous fournir la solution. Et donc, ce qui a nécessité en amont de trouver des financements, de recruter des personnes, une chargée de mission, Raphaël, qui nous a rejoint depuis octobre dernier. Et là, on a lancé un deuxième recrutement pour assurer justement l'accompagnement de toutes les personnes qui vont utiliser, tous les utilisateurs de la caisse, donc que ce soit les cotisants, les points de vente, etc. Et puis les accompagner à se former aux outils, etc.
Qui sont des outils, j'imagine, relativement complexes pour intégrer...
pas si complexes que ça. C'est vraiment En tant que citoyen mangeur, quand j'arrive à la caisse, je vais ouvrir mon appli, je vais sélectionner que je suis à tel point de vente qui va être pré-rempli dans les suggestions, et puis je vais rentrer le montant et je vais taper mon code confidentiel. Enfin, voilà. Pour les gens qui ont déjà l'habitude d'utiliser un téléphone intelligent, ça devrait aller. Et puis pour les autres, c'était le système que je disais où il y aura juste un code confidentiel à retenir.
Je disais complexe pour créer ce programme et que pour le rendre.
En fait, c'est une déclinaison de ce qui existe déjà dans les outils de gestion de monnaie locale. Donc avec des fonctionnalités un petit peu différentes, mais voilà, dans le principe, c'est des choses déjà existantes. Et puis, on va sûrement travailler avec des partenaires qui sont dans une logique open source, de création de communs numériques, etc.
Peut-être un mot de plus sur les financements qui permettent à ce projet d'aboutir. Quels sont-ils?
Alors, on a eu on a un soutien de la mairie de Dieulefi, de la DRAF, c'est la direction régionale de l'agriculture. Et on a eu aussi un soutien du département, donc du projet alimentaire territorial du département. Et ça, c'est pour les subventions publiques. Et donc sinon, on a fait appel à des fondations privées. Voilà, Léa Nature et Kibio, et puis la fondation Carasso, qui nous permettent vraiment de faire ces recrutements. Après, là, pour l'instant, on a redéposé, là, en début d'année, on est en train de reposer des dossiers de financement. Si on n'a pas des réponses positives, on n'aura plus de financement pour les salariés à la fin de l'année 2024. Et voilà, on comptait beaucoup sur un appel à projet l'année dernière qui était le Fonds pour une aide alimentaire durable, qui était censé avoir beaucoup d'argent. Et en fait, la distribution des fonds a été très opaque et a bénéficié en Auvergne-Rhône-Alpes et Drôme, surtout au Resto du Cœur. Et voilà, n'a pas soutenu des projets plus innovants, alors que ça a été le cas dans d'autres régions.
D'accord. Donc c'est un modèle qui reste fragile et qui vous pousse à demander d'autres financements pour que ça continue.
Voilà, bah, en fait, on se rend compte qu'il y a une belle dynamique bénévole, mais c'est vrai qu'il y a besoin de un ou deux salariés, mais qui sont à temps partiel, pour assurer le suivi, que ça avance, etc. Et après, si on n'a pas les financements, on fonctionnera en mode dégradé, mais on essaye quand même. Et puis il y a une autre source aussi. En fait, on déploie aussi beaucoup d'énergie dans le réseau national, dans le collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation. On avait accueilli les rencontres en octobre sur notre territoire. Et en fait, par exemple, sur la solution technique là, dont je parlais tout à l'heure, on a travaillé avec la Gironde, qui veut aussi lancer sa caisse cette année, sur l'étude des différents prestataires, etc. Donc il y a de la mutualisation aussi à faire avec les autres initiatives, et notamment du point de vue financier. Il y a une association qui vient tout juste d'être créée, de ce collectif, il me semble.
Oui.
Peut-être on va pouvoir mutualiser aussi la recherche de financement.
Sur ce système de cotisation donc, qui est en train d'être mis en place pour la rentrée, on va dire, il y a d'autres collectifs locaux pour une sécurité sociale de l'alimentation qui l'ont déjà mis en place en France, avec qui vous avez pu discuter?
Oui, c'est à Montpellier, là, ils ont démarré cette caisse commune en mars 2023. D'ailleurs, ils ont fait une petite vidéo qu'on pourra mettre sur le site de Radiola, parce que ça illustre bien le fonctionnement de la caisse.
On mettra le lien sur l'article de l'émission.
Et je crois qu'ils sont assez contents. Après, ils ont fait le choix d'avoir des financements publics pour l'équilibre de la caisse, et pas public et privé d'ailleurs. Et pour l'instant, nous, on aimerait bien vraiment relever le pari d'avoir une caisse qui est autonome de financement extérieur. Donc qui marche qu'avec la solidarité locale qu'on arrive à créer.
Je vous propose de prendre une petite pause musicale et de continuer à parler de la sécurité sociale de l'alimentation juste après. On écoute Manu Chao, Il faut manger.
Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut courir tous les jours, il faut courir. Il faut gagner tous les jours, il faut gagner. Il faut subir tous les jours, il faut subir. Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut gagner tous les jours, il faut gagner. On va crever tous un jour, on va crever. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut courir tous les jours, il faut courir. Il faut gagner tous les jours, il faut gagner. Mieux vaut en rire tous les jours, mieux vaut en rire. Il faut tenir tous les jours, il faut tenir. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer.
Vous écoutez l'entrevue sur Radio-La, nous sommes toujours avec le maraîcher Mathieu Yon et la conseillère municipale Camille Perrin pour parler du collectif local pour une sécurité sociale de l'alimentation. Peut-être dans sécurité sociale de l'alimentation, il y a le mot sécurité. En quoi a-t-on besoin aujourd'hui, selon vous, de sécuriser notre alimentation?
Eh bien... changement climatique déjà, de moins en moins de producteurs de nourriture qu'on peut appeler paysans. Voilà, c'est le chiffre connu, mais voilà, c'est enfin connu, en tout cas dans le monde agricole. C'est 1980, en 1990, il y avait 1 million d'agriculteurs, il y en a plus que 500 000 en 2020. Donc il y a quand même une question à un moment donné qui va se poser de renouvellement des générations, de qui va produire la nourriture en fait, voilà, très concrètement. Et que c'est pas qu'une question qui concerne le monde agricole, comme certains syndicats veulent bien, enfin, essayer de l'exprimer en ce moment, comme si c'était une question un peu close. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, je trouve, prend ça en compte en fait, réfléchit à cette question-là pour retrouver quelque part un nouveau alliance, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas un nouveau s'organiser entre citoyens et paysannes et paysans, en fait.
S'organiser collectivement pour que des filières durables, locales, puissent avoir une pérennité économique. Parce qu'en fait, grâce à ce système de solidarité, on va donner à un ensemble de personnes les moyens d'acheter cette alimentation. Et donc, on va pérenniser... Enfin, on va créer des débouchés économiques pour des filières qui sont vertueuses, Et pour permettre aux personnes qui travaillent dans ces filières de vivre dignement de leur travail, d'avoir envie d'y aller, parce qu'elles voient un avenir, parce qu'elles ne vont pas bosser comme actuellement, 70 heures ou plus par semaine pour des revenus minimes. Enfin voilà, il y a une conscience collective qu'on est tous concernés pour créer de la résilience alimentaire sur notre territoire. À travers cette proposition de solidarité alimentaire.
On ne peut que faire le lien avec la forte mobilisation qui est dans l'actualité du moment, la mobilisation agricole. Peut-être en quoi, enfin, mobilisation qui dénonce les difficultés rencontrées par les professionnels de l'agriculture et notamment au niveau des revenus des productrices et des producteurs. En quoi la sécurité sociale de l'alimentation pourrait être une réponse à ces revendications, selon vous?
C'est une réponse pour l'instant qui est portée. Donc, enfin, en tout cas, le collectif pour une sécurité sociale alimentation porte cette idée. Dedans, il y a la Confédération paysanne, donc il y a un syndicat agricole, je préfère le dire, dont je fais partie, pour que ce soit plus clair, plus transparent. La Confédération paysanne va probablement bientôt, je pense, ramener ce sujet de la socialisation de l'alimentation dans le débat agricole. Elle a peu fait jusqu'à présent au niveau national. Pour des raisons un peu stratégiques, je ne sais pas, mais parce que ce n'était pas évident d'amener ça dans le monde agricole tel qu'il est aujourd'hui, qui en fait, depuis l'après-guerre, en fait, a pris ou a subi, on ne sait pas trop, une direction extrêmement libérale. Ils sont pas rentrés dans l'histoire de la Sécu. Il y a eu un positionnement très très libéral, et actuellement, c'est aussi les syndicats majoritaires type FNSEA, c'est toujours ce qu'ils demandent d'ailleurs. Moins de jachères, moins de normes sur les produits phyto, plus de molécules autorisées type
nicotinoïdes.
Merci. Donc en fait, ça, c'est une logique de n'entraver pas nos capacités de production, car plus on produira de volume, plus on générera du capital. Bon, je suis pas très doué en économie, mais j'ai fait un bac ES. À l'époque, ça s'appelait comme ça, économique et sociale. Et dans mon souvenir, plus on, enfin, la loi de l'offre et la demande, enfin, plus il y a d'offres, plus le prix diminue, en fait, à un moment donné. Donc, en fait, cette idée de surproduction défendue par les syndicats majoritaires, en fait, entraîne inéluctablement la baisse des prix. Et donc c'est une course à la surproduction qui entraîne une course à la baisse des prix, alors d'abord au niveau français, puis au niveau européen, puis au niveau mondial. Donc tout le monde est embarqué dans ce système, qui accessoirement, bon, accélère le changement climatique aussi, mais ça, bon, à la limite, voilà, ça, apparemment, c'est pas très grave, enfin, pour certains. Et donc c'est sortir cette logique, en fait, de surproduction et de surlibéralisme, on pourrait l'appeler. Et donc là, il y a quand même comment la Confédération Paysanne va arriver à amener cette question de la socialisation de l'alimentation pour que la société l'entende, mais l'enjeu d'aujourd'hui, c'est aussi pour que le monde agricole puisse l'entendre. Et là, je dois bien avouer que c'est pas complètement gagné, parce que le monde agricole subit 60 ans de libéralisme, enfin subit le libéralisme depuis au moins depuis 60 ans, donc faut pas leur jeter la pierre. C'est-à-dire que du coup, l'horizon, il n'y en a pas beaucoup d'autres que la destruction des normes, etc. Quoi. Mmh.
Pour faire le lien avec la sécurité sociale de l'alimentation et ce que dit, c'est qu'en fait, avec cette idée de réappropriation par les citoyens de qu'est-ce qu'on veut manger, donc de décider de quelle alimentation va être conventionnée, et ben en fait, ça va être la demande qui va orienter la production. C'est plus on produit et puis ben, on voit comment ça s'écoule. C'est voilà, la demande des habitants pour tel type d'alimentation qui va pouvoir orienter la production puisqu'elle lui crée des débouchés.
Et effectivement, c'est bien ce que dit Camille, parce que là, bon, j'étais sur un blocage à la 43, on essayait de rencontrer d'autres agriculteurs, d'autres syndicats, etc. Un peu confronter nos points de vue, donc c'était pas inintéressant.
Pardon, à la 43, c'est...
Oui, on bloque toujours actuellement, d'ailleurs, à Saint-Quentin-Falavier, un gros péage qui entre dans Lyon, en fait, au milieu de la plus grosse plateforme logistique européenne, paraît-il, en tout cas de France. Mm-hmm. Donc là, la Confédération Paysanne bloque le péage depuis avant-hier. Enfin, je suis rentré hier soir, donc depuis avant-hier. Voilà, donc je suis rentré hier soir, c'est pour ça que j'ai un peu la voix un peu cassée. Et où j'en étais, effectivement, c'est que je vois bien tout à fait les collègues de la FNSEA ou autres qui diraient « Oui, mais nous, en fait, quelque part, que ce soit le citoyen qui oriente la demande, on n'a pas envie parce qu'on veut produire ce qu'on veut. » Mais enfin, actuellement, en fait, ils ne produisent pas ce qu'ils veulent, c'est l'agro-industrie qui oriente leur production. Donc en fait, si ça, ils peuvent l'entendre, qu'il vaut mieux créer un partenariat... démocratique, et que ce soit des citoyens qui n'ont a priori pas d'intérêt économique majeur, si ce n'est bien manger, être en bonne santé, et que les paysans vivent de leur métier, a priori, il vaut mieux passer une alliance avec les citoyens qu'avec l'agro-industrie. Puisqu'actuellement, les paysans passent une alliance avec l'agro-industrie, enfin, ils passent une alliance. Ils subissent cette alliance, en tout cas. Et donc ça, les agriculteurs de la FNSEA et d'autres syndicats devraient essayer de réfléchir à ça, qu'actuellement, ils ne sont pas libres de leur production. Et qu'ils ont des partenaires qui ne sont pas fiables, en fait. Voilà.
Et l'une des réponses pour acquérir cette forme de liberté serait de, comme vous dites, l'une des solutions pourrait être l'idée de sécurité sociale de l'alimentation, et donc travailler main dans la main avec les habitantes et les habitants.
Mais concrètement, nous, ce qu'on imagine en local, c'est qu'on pourrait aller voir des agriculteurs qui actuellement vendent en circuit long, pour dire, ben voilà, nous on a tant de cotisants dans notre caisse, il nous manque dans le panier qu'on peut avoir localement de nos produits conventionnés, il nous manque certains produits, par exemple des céréales ou des légumineuses, et ben en fait, on a ce volume financier à vous proposer pour que, en fait, une partie de votre production serve plutôt au local, et on a un peu des revenus garantis pour vous, pour cette partie de production. Donc voilà, si on arrive à créer cette caisse, on aura une vraie force crédible pour orienter différemment, en fait, des productions qui actuellement sont dans les circuits longs.
Très bien. Peut-être pour une question pour suivre localement le projet, donc au niveau du comité local pour l'alimentation, donc qui va se monter dans les prochains mois en vue de lancer le nouveau projet de cotisation de la SSA. Comment est-ce qu'on peut vous suivre localement?
Alors depuis 2 ans, on faisait des assemblées mensuelles une fois un dimanche matin par mois. Là, depuis quelques semaines, on a démarré des apéros. Qu'on a fait à Bordeaux, à Pont-Barret, à Dulphy. Et on a envie de continuer avec ces apéros, parce que voilà, il y a quelque chose de convivial qui nous permet de toucher d'autres personnes. Donc On communique aussi régulièrement dans le journal municipal et puis dans le... sur les réseaux sociaux. Vous pourrez entendre parler de nous, venez à nos apéros et puis on pourra discuter à ce moment-là de comment s'impliquer dans le projet. Et on va aussi, je pense, recommuniquer pour lancer ce conseil local de l'alimentation.
Affaire à suivre, Mathieu Lyon. Ouais.
Oui, juste dire qu'effectivement, avec l'actualité, donc, la population française semble vouloir soutenir ses agriculteurs, etc. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir se retrousser les manches pour les citoyens aussi, pas simplement pour les paysannes et les paysans. Et que donc, la sécurité sociale et l'alimentation, c'est une manière très très concrète, très, très pratico-pratique de soutenir des filières agroécologiques et de soutenir les paysannes et les paysans. Et de sortir des incantations. Voilà. Là, on est dans une proposition extrêmement concrète.
Merci beaucoup Mathieu Lyon et Camille Perrin d'être venus parler de la sécurité sociale de l'alimentation au micro de Radiola. Pour suivre les actions de la SSA au niveau national, il y a le site sécurité-sociale-alimentation.org. Le lien sera en podcast de cette émission dans les prochaines heures. Merci encore. L'entrevue, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette interview sur le site de Radiola, www.radiola.media.
Radiola, producteur local d'ondes de qualité.